Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
En ce 14 février, Franck Ferrand propose un voyage à tous les couples d'amoureux sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Bonne fête aux amoureux et en voiture en effet, puisque je vous propose d'aller faire un tour du côté de la Grande Bleue. Pas très loin peut-être, mais comment dire, dans un ailleurs dépaysant sur la Côte d'Azur.
Ah, la Côte d'Azur où l'on s'apprête à fêter le carnaval d'ailleurs.
Et oui, c'est demain en effet que commence le célèbre carnaval de Nice, dont nous allons revivre ensemble tout à l'heure une des premières éditions. C'était celle de 1880. Et vous allez voir que le souvenir de ce carnaval de 83 est resté très vif dans les mémoires là-bas.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
La Côte d'Azur, on emploie le terme à tout bout de champ, généralement sans savoir même d'où il vient. Eh bien figurez-vous que je me suis renseigné et que la réponse m'a surpris. Nous devons cette appellation de Côte d'Azur à un bourguignon, mais oui, un certain Stéphan Liégeard qui était né à Dijon en 1830 et à qui son zèle bonapartiste avait valu d'être nommé tout jeune dans la préfectorale et d'être nommé en Provence. Il a, dit-on, servi de modèle à Alphonse Daudet pour une des plus savoureuses de ses lettres de Montmoulin, le sous-préfet aux champs. Cette nouvelle avait d'abord été publiée dans l'événement en octobre 1866. Alors qui était-il ce Stéphan Liégeard? On va dire que c'était un dandy. Voilà comment on le décrit en 1900. En 1900, il est nettement plus âgé, il a 70 ans. Corseté dans sa redingote à jupe, culotté de gris perle, le favori frisé, la main appuyée sur le jonc à pommes d'or. Eh bien, c'est ce monsieur très chic, amoureux du midi, qui en 1887 devait publier un très beau volume illustré de 400 pages, intitulé « La Côte d'Azur ». Le mot était lancé, il sera aussitôt adopté par le public. Je cite Stéphan Liégeard lui-même. « N'est-ce pas le public qui, adoptant notre titre et le faisant sien, l'a donné en baptême ? Au souffle de sa volonté souveraine, se sont fondues comme neige au rayon d'avril les dénominations inexactes ou surannées du littoral méditerranéen, corniche, riviera, plage ligurienne, et sur la place restée vide, s'est installé par droit de conquête ce vocable imagé et rapide, plus vrai encore que poétique, la Côte d'Azur. » Alors dans son livre, notre dandy divisait la côte en 13 chapitres. Hier est le pays des morts, Saint-Raphaël et Fréjus, Cannes, les îles de l'Érins, l'Estérel, Grasse, Antibes, Nice. Nous allons nous apesantir aujourd'hui sur Nice, carnaval oblige. La Corniche, la principauté de Monaco, Menton, Bordighera, San-Rémo et de San-Rémo jusqu'à Gênes. Alors, hormis les trois dernières destinations, on peut dire qu'on est là dans ce que les Anglais avaient nommé la French Riviera. Le regretté André Castelot, qui aimait beaucoup la Côte d'Azur, avait pour coutume de rappeler que cette région devait quasiment toute sa renommée aux ébahissements d'un Écossais de l'époque de la Révolution française, M. Smollett, véritable découvreur britannique du comté de Nice. Ces lettres de Nice sur Nice feront accourir au bord de la Méditerranée les premiers vacanciers britanniques, bien sûr, écrit André Castelot. Et pourtant, Mr. Smollett, mis de forme et chantumeur par son voyage, trouva les servantes niçoises qu'il engagea pour son service paresseuses, négligentes et d'une saleté repoussante. Les rues de la ville remplies d'excréments, les fenêtres des maisons garnies de papier au lieu de vitres, la noblesse ridicule par ses prétentions alors qu'elle était pauvre et vivait misérablement, les boutiquiers rapaces et fraudeurs, les artisans et ouvriers paresseux et ne pensant qu'à se chauffer au soleil. C'est ça, c'est pas des points de vue d'Écossais en vadrouille. Même les médecins, il y en avait 11 à Nice à l'époque, ne trouvèrent pas grâce devant ses yeux, nous dit André Castelot, car ils osaient demander 6 pence par visite. Pourtant, constatait avec satisfaction Mr. Smollett, on ne les payait jamais. Et la vermine, sur ce chapitre, il est intarissable. On est importuné jour et nuit par les mouches, les puces, les punaises. Elles s'abattent en nuées sur vous, un comble. Elles ne respectent même pas la tasse de thé de notre insulaire. Il achève le tableau en affirmant « Il est rare de trouver un peuple aussi dénué de goût. » Alors vous allez me dire « Mais qu'est-ce qu'il trouvait ?» Ah ben, ce qu'il trouvait de beau, évidemment, c'est le pays lui-même. Alors là, changement de ton. Smollett est ébloui par la beauté de la côte, enthousiasmé par les fleurs, ému par les oranges, orges, les citronniers, le climat l'enchante, encore qu'on soit en plein hiver et qu'il y eut le matin de la gelée sur le soleil, écrit-il, était aussi chaud qu'il l'est en Angleterre au mois de mai. Évidemment, attirés par les propos de Smollett, les Anglais vont bientôt prendre le chemin de la Côte d'Azur. Nous allons y venir dans un instant avec notre ami Jean Descartes. Ces Anglais vont devenir les véritables vacanciers, les créateurs d'un nouveau tourisme, ce tourisme hivernal de la Côte d'Azur. Que de beauté ici, écrivait Mary Harcourt. Je ne me lasse pas de parcourir à dos d'âne, les collines parfumées qui s'étagent derrière Nice, de cueillir ses roses, ses œillets, ses fleurs charmantes dont s'orne chaque buisson, d'admirer les grands eucalyptus, de me perdre dans les bois d'oliviers qui descendent jusqu'à la mer. C'est une contrée de rêve. Tellement idéale en vérité cette contrée qu'elle allait devenir la première grande destination touristique de l'histoire.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et nous proposons à tous les amoureux kinésiocultures Europe 1 cet après-midi une balade du côté de la Côte d'Azur, Franck, avec votre invité, un habitué du micro d'Europe 1. Il s'agit de Jean Descartes.
Bonjour Jean Descartes.
Bonjour Franck.
Merci beaucoup d'être des nôtres et je salue particulièrement la performance puisque vous venez de parcourir la moitié de la planète en avion et que, sitôt descendu d'avion, vous êtes là dans les studios d'Europe 1. Merci beaucoup.
C'est toujours un bonheur.
Alors, parlons de cette découverte qu'ont faite les Britanniques.
Je crois qu'il y a une chose qu'il faudrait rappeler, Franck, c'est que si l'expression Côte d'Azur a fait fortune, le texte de M. Stéphane Liégeard, sous-préfet de Carpentras, est totalement oublié. Vous avez bien fait d'en citer des extraits. Il avait été couronné par l'Académie française et a sombré tout à fait dans l'oubli. C'est d'une grande injustice. Donc il faut
d'ailleurs, lui-même aurait voulu entrer à l'Académie française.
Absolument,
et puis, il a passé, on peut dire, toute la dernière partie de sa vie à poser des candidatures soutenues par Alphonse Daudet. Et puis,
absolument. Je crois que ce qui est très important, si vous voulez, pour la Côte d'Azur, en fond, c'est la conjonction d'un phénomène météorologique et d'un phénomène industriel. Les Britanniques, lassés de leur brouillard, l'époque très important, voulaient un peu de soleil. La promenade en Italie, le périple italien avait laissé des traces. Bien. Et alors, ça va prendre un essor fantastique, il faut quand même le dire, c'est à mon avis grâce à Napoléon III, avec le rattachement de Nice et de la Savoie à la France. Et le développement du réseau ferroviaire, c'est-à-dire que les communications, il ne faut plus que 12 ou 14 heures pour rejoindre la Côte d'Azur depuis Paris, et ça c'est très important. En plus, les hôteliers vont avoir l'idée formidable de garantir du soleil l'hiver aux Britanniques, donc ils vont ouvrir les hôtels l'hiver, ce qui ne se faisait pas avant. Donc ça c'est à mon avis très très important.
Autrefois les hôtels étaient saisonniers, ils n'ouvraient qu'à la belle saison.
Exactement, oui. Et alors, en plus, il y a un phénomène fantastique, c'est que le Gotha va prendre le chemin de cette Riviera. Et quelqu'un comme l'impératrice Eugénie, par exemple, avec son ami Mérimée, n'avait pas suivi le conseil qu'il lui donnait d'acheter des terrains près de Cannes. Elle préférait son cher Biarritz. Mais après la chute de l'Empire, elle va regretter sa décision et va s'installer au Cap Martin.
Voilà. Le Second Empire chute en 1870.
Et là, si vous voulez, l'impératrice Eugénie rachète à une Bonaparte, veuve du duc d'Aoste, un terrain et décide de faire construire, je trouve ça très émouvant, une villa qu'elle va appeler la Villa Cyrnos, c'est-à-dire la Corse en grec. Villa qui existe toujours, qui est une propriété privée qu'on ne visite pas et qui est magnifique parce qu'on voit en effet, par temps très clair, on voit la ligne bleue de la Corse à l'horizon. Alors, là c'est fantastique parce qu'on a une impératrice qui a 70 ans, qui croise Victoria qui vient. La reine Victoria avait quand même suspendu ses visites et avait décidé que les Anglais ne se promèneraient plus à Nice après les incidents de Fashoda dans les guerres coloniales.
Donc là, c'est l'extrême fin du siècle.
Et qui arrive avant la fin du siècle? Quelqu'un qui est toujours pressé, qui se trompe de siècle comme on se trompe de porte, disait Paul Morand, c'est Sissi. Et il y a un moment fantastique où le Cap Martin devient le cap des impératrices puisqu'elles se rencontrent. Toutes les trois.
C'est-à-dire qu'on a l'impératrice des Indes, c'est le cas de dire, de la reine Victoria. On a l'impératrice d'Autriche, bien sûr, qui est souvent en villégiature sur la Méditerranée et qui notamment vient s'installer.
Elle fait des croisières à bord de son bateau, le Tisselle, le Chardon.
Et puis l'ancien, alors ça c'est l'ancienne impératrice des Français, Eugénie, qui elle est à bord de son petit yacht.
Voilà, de son petit yacht. Et ça c'est très important parce qu'elle ira rencontrer beaucoup de personnalités. Et il y a, j'ai pu établir quelque chose de très émouvant qui se passe juste avant 1914. Léon Daudet voulait faire un portrait de l'impératrice. Il était frappé par sa dignité après tous ses malheurs et son silence. Et il arrive accompagné à la Villa Cirnos d'un jeune homme, c'est Jean Cocteau. Et Jean Cocteau est fasciné, il veut rencontrer ce grand témoin, et voici ce qu'il dit, ça n'est pas singulièrement modeste, mais c'est intéressant. Elle portait une manière de soutane, un chapeau de paille sombre, une canne à béquilles, il s'agit de Génie bien sûr, elle était infatigable, ses yeux étaient délavés, il n'en restait qu'une vague tache bleu pâle encerclée de maquillage noir, elle éclatait parfois d'un rire espagnol, ce rire qu'on entend aux arènes lorsque les femmes trépignent d'enthousiasme avec leurs petits pieds de bouc. J'étais très jeune, l'impératrice était très veillée, mon coup d'œil était donc celui de quelqu'un qui entre et qui regarde vite quelqu'un qui sort. Or,
c'est très joli cette phrase, mon coup d'œil était celui de quelqu'un qui entre et qui regarde vite quelqu'un qui sort.
Mais il va être pris au piège, parce que l'impératrice, fascinée par ce futur prince des poètes, va le raccompagner à la gare, il est très gêné. Il la raccompagne à nouveau de la gare à la villa, ils vont se raccompagner... tout un après-midi, ce qui est fantastique, à mon avis, la rencontre unique entre Eugénie et le jeune Jean Cocteau dans ce décor magistral qui séduit tout le monde. Et c'est formidable. Alors, en plus, il y a des phénomènes, nous allons dire, périphériques qui ne sont pas négligeables. Quand en 1866, à Monte-Carlo, nouveau quartier du nom du prince Charles III, les jeux sont autorisés alors qu'ils ne sont pas à Nice.
Alors justement,
ça, c'était très astucieux.
Les casinos, les grands hôtels, nous y venons en votre compagnie, Jean, dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
De Don Quichotte, comédie héroïque de Jules Massenet, puisque nous poursuivons notre escapade aujourd'hui du côté de la Côte d'Azur, Franck.
Connais-tu le pays où fleurit l'oranger ? Il y a évidemment dans cette extraordinaire douceur du climat, dans l'intensité des couleurs, dans la qualité particulière de l'air qu'on trouve sur cette Côte d'Azur, les secrets qui ont littéralement ensorcelé les touristes du monde entier, à commencer par les Britanniques. D'ailleurs, on dit, Jean Descartes, que dans n'importe quel pays où que vous alliez, chercher où résident les touristes britanniques, c'est toujours le plus bel endroit. Ils ont le chic, les Anglais.
Très bon goût. Et l'expression promenade des Anglais dit bien ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire qu'on quitte Londres, le brouillard, je me répète, et on arrive dans un pays qui a un peu d'Italie, n'est-ce pas ? Un peu d'Italie.
Mais un peu beaucoup. C'est-à-dire que l'architecture, l'atmosphère générale reste quand même très imprégnée d'Italie. Et pour cause du reste. Hein.
Et avec une gastronomie qui va se développer. Et puis alors les fêtes des fleurs sont fantastiques. Non, il y a un ensemble là. Et il va y avoir des gens très très intelligents qui vont inventer un tourisme de qualité. Alors on a les débuts dans le fond d'une vraie thalassothérapie, si vous voulez. Après les essais à Biarritz. Mmh. On a les débuts de la grande hôtellerie.
Tout ça, c'est Monaco, enfin, c'est Monte-Carlo.
Monte-Carlo, mais autour, qui va avoir des émules. On a le début d'une gastronomie formidable, d'un art de vivre, et le développement aussi, ce serait injuste de l'oublier, de l'arrière-pays admirable. Donc il y a une foule, c'est très intéressant parce que c'est cyclique et la Côte d'Azur devient un mythe, une magie. Qui existe toujours.
Alors, est-ce qu'on peut dire que plus on s'éloigne de la frontière italienne, on va partir dans ce sens-là, si vous voulez, on va partir de Menton, là on est encore dans quelque chose qui est profondément, qui est dans le pittoresque italien tel qu'on l'imagine dans les lettres du président de Brosse. Hein. On est encore dans un pays très italianisant, en
Bien
quelque
sûr.
Sorte, avec un relief fort.
Oui, de toute façon, on va dire que la maison de Piémont-Sardaigne n'est pas loin, puisqu'elle
C'est ça,
était,
hein.
si j'ose dire,
elle était chez elle. Oui.
Et le temps d'ailleurs n'est pas le même. Quand vous avez ces montagnes qui sont très très élevées, les nuages s'accrochent, il fait très lourd et ça se dégage au fur et à mesure qu'on va dans le fond vers l'étranger, c'est-à-dire la Provence.
Alors il y a eu ensuite évidemment cette extraordinaire efflorescence de la principauté de Florestan de Charles III,
oui.
C'est-à-dire que ce rocher de Monaco qui va s'étendre dans une Monte-Carlo toute neuve avec l'opéra de Garnier, le même, hein, Charles
Bien
Garnier
sûr.
Qui vient de Paris pour faire l'opéra de Monte-Carlo, avec évidemment ce casino dont vous parliez, et la Société des Bains de Mer. Le casino le jeu, le frisson des joueurs a marqué définitivement l'image de la Côte d'Azur, il
absolument,
faut le dire ça.
Avec une astuce fantastique du temps de François Blanc et du prince Charles III, c'est de garantir aux joueurs qui ont perdu qu'ils auraient un billet de chemin de fer,
voilà,
peut-être en troisième classe, mais pour faire un parcours de 50 km et rentrer chez eux. Ce qui intéresse à la fois les Italiens et les gens de Nice aussi. Donc ils savent qu'ils ne seront pas abandonnés. Et donc le frisson du jeu dont vous parlez, qui existe même si l'on perd, ça c'est très important.
Ce qu'on a parfois tendance à oublier, et ce que ne savent pas toujours les personnes qui ne sont pas habituées de la Côte d'Azur, c'est la splendeur intégrale de paysages qui certes ont été en partie dégradés par une urbanisation à outrance depuis une cinquantaine d'années, mais quand même les rouges de l'Estérel, l'incroyable lacis de la Corniche, la splendeur de l'arrière-pays grassois dont nous parlions il y a quelque temps à propos de Fragonard, tout ça est quand même d'une somptuosité quasiment incomparable.
N'oubliez pas, mon cher Franck, que ce n'est pas par hasard que l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, qui est au début, je dirais, de la côte occidentale, est là à cause de la lumière. Pour les frères Lumière, ils n'ont pas besoin de lumière extérieure, c'est la lumière des peintres qui va être utilisée pour le cinéma.
Pas étonnant que le Festival International du Cinéma ait élu domicile à Cannes.
Alors, le Festival International du Film était une idée de, avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, de Philippe Erlanger, qui était, outre un très grand historien,
oui, un maître, disons-le,
un très grand diplomate qui dirigeait l'action artistique qui dépend du Quai d'Orsay, et il avait été frappé par la réussite de la première Mostra mussolinienne à Venise en 1938, et il avait décidé de créer un festival international du film, c'était son nom, et on apprenait seulement qu'il aurait lieu à Cannes du 1er au 20 septembre 1939. Alors évidemment, il y a des dates embêtantes. Or, il
l'a exactement
avoué,
au moment de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale.
Il me l'a dit lui-même, il m'a dit « on a cru que Hitler serait un gentleman ». Ça, il n'est pas le seul à être tombé dans le piège, et que cette catastrophe ne pourrait pas arriver. Et il y avait déjà, tenez-vous bien, pour ce projet du festival de Cannes, enfin du film, oui, se déroulant à Cannes, 6 pays présents, dont les USA et l'Union soviétique, et 29 films longs et courts qui étaient retenu, programmé, c'était déjà considérable. Alors comme on sait, l'Europe et le monde vont avoir d'autres préoccupations, et c'est réellement le 20 septembre 1946 que débute le Festival de Cannes jusqu'au 5 octobre avec la projection de 3 films. Un très, je dirais, conjoncturel, le remarquable film de René Clément, La bataille du rail, la symphonie pastorale de Jean Delannoy et l'extraordinaire Brève rencontre de David Lean.
Alors si sur cette Côte d'Azur on continue encore un peu plus à l'est, on va trouver bien entendu Saint-Raphaël et Fréjus et Hyères et tout ce massif des Maures. Ça va jusqu'où la Côte d'Azur? Encore un peu plus loin? Il ne faut pas s'arrêter à Cannes en fait.
Non, pas du tout, il faut continuer. Là il y a des discussions de frontières et de limites qui sont pagnolesques,
bon,
je dirais.
Nous allons, si vous le voulez bien, faire demi-tour pour revenir à Nice. Nous allons parler du carnaval de Nice, évidemment, c'est le sujet central de cette émission.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck consacré aujourd'hui sur Europe 1 au carnaval de Nice.
En 1883, le carnaval de Nice revêt un éclat tout particulier grâce notamment à la présence d'un certain nombre d'hôtes illustres. Jean Descartes nous parlait de ces impératrices qui avaient pris coutume de venir passer une partie de l'hiver sur la Côte d'Azur. Eh bien, elles ont été rapidement suivies par toute une partie de l'aristocratie européenne. Et l'on a en 1883, à Nice, la présence non seulement du prince de Galles, de monsieur Gladstone, premier ministre de la reine Victoria, mais d'un certain nombre de grands ducs de Russie, d'archiduc d'Autriche, etc. Un cortège évidemment très brillant et dont les journalistes de l'époque ne cessent de vanter la présence et les remarques diverses. Le cortège du carnaval lui-même vient de quitter la place Masséna. Il se dirige vers la promenade des Anglais. Alors vous imaginez que le personnage central, bien entendu, c'est Sa Majesté très folâtre Carnaval. Alors en 1883, on est à Carnaval 9. 9. Chaque souverain de carnaval, si je puis dire, est ainsi numéroté. Hein. Il y a le carnaval 26, le carnaval 32, etc. À l'époque, on est donc à carnaval 9. Et c'est le premier qui n'est plus un simple mannequin d'osier, mais qui est un véritable personnage. On lui a créé une face rubiconde en carton-pâte. On l'a paré d'habits absolument rutilants sur un immense corps assez difforme. Évidemment, il fait rire tout le monde. Et à chaque fois qu'il arrive à un coin de rue, qu'il pénètre sur une place ou qu'il va bien sûr suivre la promenade des Anglais, ce sont des hurrahs, ce sont des applaudissements et des transports d'allégresse qui accueillent cette espèce de grand mannequin. Alors vous savez qu'il y a une tradition étrange puisque à la fin du carnaval, ce grand mannequin sera brûlé au bord de la mer en grande pompe au cours d'une gigantesque kermesse, une sorte de grand feu d'artifice. Et la couronne que porte le mannequin, grâce à toute une sorte de dispositif un peu particulier, cette couronne monte dans le ciel en tournoyant comme une hélice de feu. C'est, dit-on, l'âme de carnaval qui gagne ainsi le paradis. Alors, venons-en à ce qui compose l'essentiel du grand cortège de ce carnaval à Nice en 1883. On a, ça c'est assez pratique, on possède la description des chars qui ont eu les premiers prix. Alors, le char qui a le premier prix, il est traîné par 8 bœufs d'une éclatante blancheur, nous dit la presse de l'époque. Il affecte la forme d'un nid d'oiseau suspendu par des tresses de jonc à de solides roseaux. Alors, qui est-ce qu'il y a dans ce nid d'oiseau? Il y a des enfants, des petites filles vêtues de robes de gaze blanche bordées de cygnes à l'encolure et aux manches, et des petits garçons en costume de fantaisie rose, vert pomme, bleu pâle, qui figurent les oisillons. Et alors, on leur a dit aux enfants qu'il fallait piailler comme des oisillons. Vous imaginez évidemment qu'ils ne s'en font pas défaut. Ils sont surveillés par une magnifique autruche, nous dit le commentaire de l'époque. Sur sa tête, un bonnet est orné d'un soyeux marabout. Un masque sur lequel est dessiné le bec de l'échassier cache le visage du figurant. Et puis derrière, pour accompagner le char et surtout pour essayer de mettre un peu d'ordre au milieu de ces enfants piaillants, il y a deux superbes grands-ducs qui sont plus vrais que nature dans de magnifiques costumes à plumes. Et alors ils distribuent des bonbons à la foule. Le deuxième prix, c'est un autre char qui lui représente la savane brésilienne. Alors je cite la description qu'on en donne parce que ça paraît assez invraisemblable, comme ça, dit comme ça. Une savane brésilienne enfermée dans une grande cage de la hauteur d'un premier étage et dans laquelle folâtrent des singes choisis parmi les plus petits du monde et spécialement envoyés de Guinée. La foule, évidemment, acclame tous ces chars. Je vous fais grâce de la description de tous les chars. Mais ce qu'il faut souligner, c'est évidemment l'ancrage de traditions dont on va voir à quoi elles remontent, mais des traditions notamment de batailles de fleurs. Il faut savoir qu'au moment du carnaval, en cette fin de 19e siècle, la ville de Nice est littéralement envahie de bouquetières qui vendent des paniers entiers de petites fleurs qui ont été attachées entre elles, bien entendu, et on se bat à coups de fleurs. On les jette de partout, on les jette des voitures et des chars, on les jette depuis les fenêtres et les balcons, sur les estrades, c'est une espèce de bataille de fleurs. Et vous avez des gamins, les Lazzaroni, qui, n'oublions pas toute cette tradition italienne qui est encore très prégnante, hein, qui passent leur journée à ramasser les fleurs et à les revendre moitié prix. Alors bien sûr, elles ont déjà été jetées, elles ont déjà traîné dans la poussière, elles sont peut-être un peu moins fraîches, mais ça leur permet à eux de gagner leur vie. Et on raconte aussi malheureusement qu'il y a souvent des accidents parce que les enfants en question vont chercher les fleurs jusque sous les pattes des chevaux, bien entendu. Les batailles de confettis sont aussi très importantes. Alors attention, hein, quand on parle de confettis, nous aujourd'hui, nous pensons à des petits morceaux de papier, tout simplement. À l'époque, les confettis sont en plâtre et même avant, ils ont été en sucre. Il faut imaginer des cornets, hein, c'est présenté sous forme de cornets, de petits pois de toutes les couleurs. Alors autrefois, ces petits pois étaient en sucre, c'est-à-dire qu'on avait tendance à les jeter sur les gens, ça faisait des traces de sucre, bien entendu, puis surtout, on pouvait les manger, c'était très agréable pour les enfants. Peu à peu, on s'est mis à fabriquer des confettis en plâtre et c'est le même jeu, c'est-à-dire qu'on se jette des confettis à la tête, mais on ne se jette pas 3 ou 4 confettis. À l'époque, on ne plaisante pas. Voici les unités utilisées pour la vente de ces confettis. Le sac à 100 sous pèse 100 kilos. je dis bien 100 kilos. Pour 2,50 francs, vous avez 35 kilos et pour seulement un sou, vous avez un grand cornet. Donc, vous voyez qu'il y a des gens qui achètent carrément des tombereaux de confettis. Chaque hôtel, chaque restaurant, évidemment, chaque établissement a les siens et les distribue très largement à la clientèle. Vous avez des gens qui se plaignent, bien entendu. Les confettis en plâtre qui se brisent en laissant sur la personne visée et sur ses vêtements une poussière inoffensive avaient l'avantage de ne pouvoir servir qu'une ou deux fois, nous dit un des... j'avais envie de dire un mauvais coucheur de l'époque. Il n'en est pas de même des confettis en papier, car ceux-là, on peut les ramasser sur le sol à la pelle, on les remet dans des sacs ou dans des poches pour les relancer au visage de son voisin ou de sa voisine qu'ils peuvent alors égratigner. Ah oui, parce qu'en même temps que les confettis de papier, on ramasse bien entendu toutes sortes d'ordures et de détritus. Quant au serpentin, vieille tradition non pas italienne, comme on pourrait le croire, mais bien tradition française. Alors là, on revient dans les traditions parisiennes et picardes. Les serpentins en papier, allant, nous dit toujours le même hygiéniste, de main en main et de main en figure, sont d'excellents propagateurs de gale, de dartre, d'eczéma et de prurigo. Il n'avait pas tellement le sens de la fête, ce monsieur. En s'enroulant par ailleurs aux branches des arbres, écrit-il, les serpentins en arrachent les bourgeons. Bon, ben, vous avez toujours, c'est toujours comme ça, vous savez, quand les gens font la fête, vous en avez toujours qui, évidemment, sont là pour récriminer et pour se plaindre. Ne croyez pas que ce soit l'attitude la plus répandue à travers Nice. Au contraire, on compte chaque année jusqu'à 100, 120, jusqu'à 140 000 participants le jour du grand défilé. Et puis alors, à la fin des festivités, lorsqu'un grand coup de canon signale, si je puis dire, la fin des hostilités, alors c'est cette espèce d'explosion de joie. Je vous l'ai dit, hein, le soir venu au bord de la mer, le grand mannequin de carnaval est mis en flammes. Les flammes ont peu à peu résolu de ses beaux atours, elles viennent dévorer son sourire, elles s'attaquent à l'armature, on voit le mannequin qui se tord, qui se contorsionne d'une manière assez grotesque et dérisoire, il envoie en fumée tout ce qui pouvait rester de la fête et l'on se dit que l'année prochaine, ce carnaval, c'est-à-dire ce mannequin lui-même, renaîtra de ses cendres et Nice, de nouveau, fera la joie de tous les touristes et de tous ceux qui, depuis l'ensemble de la Côte d'Azur, seront venus faire la fête.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Félicity Lott sur Europe 1 qui interprète un poème pour voix de Ravel, Scheherazade. À vous Franck, avec votre invité sur Europe 1.
Est-ce qu'on peut dire, cher Jean Descartes, que le carnaval de Nice a compté parmi les pôles d'attraction au même titre que le casino de Monte-Carlo ?
Ah, certainement, pas forcément pour le même public. Il y a, à ma connaissance, un événement sans précédent, c'est la publicité avec les affiches et les réclames. Mmh. Carnaval de Nice, avec bataille de fleurs, grand corso fleuri, et comme oui, on voilà, disait oui, à l'époque, qui attire tellement de gens qu'on va mettre en service, les différentes compagnies de chemin de fer d'époque, un train Saint-Pétersbourg-Cannes, qui s'appellera, pour les initiés, le train des Grands-Ducs. Il y avait une folie de la Riviera chez les Russes. La Côte d'Azur s'impose par son sens de la fête, son originalité. C'est certain que je ne crois pas qu'il y ait eu un carnaval en France qui ait atteint une notoriété aussi européenne. Voilà.
Alors, il y a évidemment parmi tous les grands établissements de la Côte d'Azur une sorte de roi de l'hôtellerie. C'est un des derniers hôtels, un des derniers grands palaces construits, c'est le fameux Negresco. Et vient de paraître aux éditions du Rocher un ouvrage, un document qui sont les souvenirs de la propriétaire du Negresco. Ça s'appelle « La dame du Negresco, Jeanne Augier ». Nous aurons tout à l'heure en ligne Jeanne Augier. Je suis très heureux de recevoir Bertrand Dekers, qui connaît très bien non seulement Nice et le Negresco, mais Madame Augier. Elle est un peu une figure locale, Bertrand.
Bonjour Franck. Absolument, Madame Augier est la grande dame du Negresco et elle est la maîtresse maintenant incontestée de ce bâtiment absolument sublime qui est devenu le symbole de Nice avec son dôme rose couleur de chair, un peu comme la Tour Eiffel est le symbole de Paris.
L'inauguration du Negresco, c'était il y a exactement 100 ans, le 8 janvier 1913. C'était une grande fête.
Une très grande fête. Pas moins de 7 souverains participent à ce cocktail absolument éblouissant. Alors ils disent que dès que l'on pénètre sous la voûte d'entrée, on est confronté, on est face à une rotonde elliptique qui mesure près de 50 mètres de haut. Mais en plus, cette rotonde a des proportions absolument démentes puisqu'elle ne mesure pas moins de 460 mètres carrés. Elle est donc jamais. On a l'impression que jamais on ne parvient à la fin, qu'elle est interminable.
Oui, et surtout à l'échelle des établissements qui pouvaient exister à l'époque, on était dans quelque chose de tout à fait. C'était du jamais vu, Jean Descartes, on peut dire.
Ah oui, ça dans la conception, la construction et l'esthétique, je dirais, le style négresco. Il est bien certain qu'il s'agissait de rivaliser avec l'Hôtel de Paris, l'Ermitage, etc. Et la fierté des Niçois était réelle. Ils avaient une revanche. Je dirais, dans l'hôtellerie de très grand luxe à prendre sur Monte-Carlo. Et c'est bien fait jusqu'aux portiers empruntés aux établissements de Londres avec cet uniforme extraordinaire.
Tout à fait célèbre, l'uniforme des portiers du Negresco. Alors d'où vient ce nom, Bertrand Decker, ce nom Negresco? Pourquoi Negresco?
Le nom du Negresco vient tout simplement de son concepteur, de la personne qui l'a fondé, qui est Henri Negrescu. Henri Negrescu qui est un Roumain, qui est un fils d'aubergiste qui est né à Bucarest, qui était un cuisinier de très grand talent, qui a immigré, qui est arrivé en France, qui a fait ses classes sur la Côte d'Azur, dans les palaces, dans les hôtels de Nice et puis très vite de Monte-Carlo. Il a très vite acquis une renommée très très précieuse. Il servait les rois, les reines, les empereurs et les impératrices, et il a eu l'envie de devenir lui-même hôtelier, de posséder ses propres fourneaux. Il est donc parti à travers l'Europe et le monde pour poursuivre cet écolage. Il voulait réaliser le plus beau palace au monde, ouvrir l'hôtel le plus précieux.
Alors il a fait appel à un grand architecte.
Absolument, Édouard Nirmans, qui est un peu l'Offenbach de l'architecture. Mmh. Il lui commande un palace dans le style Belle Époque, qui est le style justement en vigueur à l'époque. Et alors on dit, la légende raconte qu'il commande ce dôme, pourquoi? Parce que ce dôme représenterait donc le sein de sa maîtresse.
Alors effectivement, vous avez cette coupole très célèbre, qui est peut-être la signature, on va dire, du Negresco. On peut dire que c'est un des palaces les plus connus du monde. Il y avait beaucoup de clients très fortunés, évidemment. On imagine.
Bien sûr, les Vanderbilt, les Singer, la reine Amélie de Portugal, les ducs Vladimir et Dimitri, les cousins du tsar Nicolas II. Donc la clientèle rivalise d'élégance.
Alors tout ça, c'est, on va dire, non seulement avant et pendant la Première Guerre mondiale, mais surtout pendant l'entre-deux-guerres, le Negresco. Bah, c'est la grande époque du train bleu, finalement, Jean Descartes.
Oui, et c'est tellement la grande époque du Negresco de Nice, avec des années merveilleusement folles, il faut bien le dire, qu'il y aura une curiosité. Une double inauguration du train bleu, c'est-à-dire que le matériel des trains de luxe, la compagnie Wagon-Lits en bois a disparu dans les flammes et dans, l'horreur de 4 ans de guerre, et on a maintenant des voitures bleues, métalliques. Alors elles sont bleues, non pas pour être en accord avec la Méditerranée, même si ça arrivera, mais tout simplement parce que le directeur général de la compagnie des wagons-lits de l'époque, M. Noblemaire, avait fait son service dans les chasseurs alpins. Il cherchait une couleur et c'est le bleu chasseur alpin qui va être sur la livrée des voitures avec les armes belges d'ailleurs d'origine de la compagnie. Et on inaugure une première fois le Calais Méditerranée Express. Et une seconde fois en 29, parce qu'il y a un nouveau matériel, une cuisine fantastique à bord, et tout le monde dit c'est un train bleu qui va vers la mer bleue. Donc il y a une espèce d'osmose extraordinaire, et le bleu va devenir lui-même l'antichambre.
Après tout, c'est la Côte d'Azur.
Oui, c'est ça, la Côte d'Azur. On reste dans l'harmonie, et c'est pour ça. Et moi, j'ai connu encore dans les années 70, à la fin de la grande époque du train bleu, des gens, si vous voulez, comme Walt Disney, la princesse de Monaco, Coco Chanel, Sacha Guitry, et le barman qui disait « Mon bar est plus élégant que celui du Ritz ou du Negresco », pardon de le dire. Il était très snob.
Alors on descendait de ce train bleu, on filait au Negresco. Ce qu'il faut dire, c'est que au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'hôtel commence à fatiguer un peu. Il n'a plus du tout la modernité qui pouvait attirer encore 30 ou 40 ans plus tôt la clientèle la plus prestigieuse. Et il va falloir que les Augier, la famille Augier, le rachète en 1957 pour qu'il vive une sorte de seconde naissance, Bertrand Decker.
Oui, c'est la famille Augier qui rachète l'établissement en effet. Et c'est Jeanne Augier, la fille donc... de monsieur et madame Augier qui va en faire cet établissement absolument luxueux. Les Augier ont fait fortune dans l'immobilier. Ils étaient entrepreneurs, ils n'étaient pas du tout dans l'hôtellerie. Alors ils achètent cet établissement tout simplement parce que madame Augier, la mère, donc, vient de subir une intervention chirurgicale. Elle est en chaise roulante, en fauteuil roulant, et le Negresco est à l'époque le seul établissement dont l'ascenseur peut accueillir en fauteuil roulant. C'est donc pour cette occasion, dans ce but qu'il rachète l'hôtel.
Alors justement, le grand ascenseur du Negresco va être relooké, si je puis dire, oui, par Jeanne Augier.
C'est le premier chantier auquel s'attaque madame Augier à la vue. Elle a aperçu le berceau du roi de Rome, qui est entièrement tapissé, capitonné de velours rouge.
Satin rouge, oui.
Voilà. Et elle en a gardé l'image et elle décide de faire capitonner effectivement les ascenseurs du Negresco en velours rouge, de façon un peu à montrer à la clientèle qui pénètre dans l'ascenseur que le renouveau du Negresco est en marche.
Et il y a chez Madame Augier une sorte de patriotisme, une volonté de faire de son hôtel une sorte de vitrine de la France. Il y a un petit peu quelque chose d'un Versailles méditerranéen.
Oui. Elle dit elle-même, mon but n'était pas de vendre des cafés crèmes, des bières et de coucher des gens dans des lits aussi somptueux soient-ils. Le vrai but que je poursuivais était de faire vivre la France, de représenter la France. Je suis très cocorico, dit-elle entre guillemets. Elle décide effectivement que le Negresco va devenir une ambassade française.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Au cœur de la Côte d'Azur aujourd'hui sur Europe 1 avec vous Franck et vos invités.
Magie de la radio, nous parlions de Jeanne Augier à l'instant. Eh bien, Jeanne Augier est avec nous au téléphone depuis le Negresco. Bonjour madame.
Bonjour monsieur.
On peut dire que cette grande maison a occupé toute votre vie finalement, depuis que vos parents l'ont rachetée en 1957. Est-ce que vous avez des souvenirs de personnalités qui sont venues au Negresco et avec lesquelles vous avez entretenu des relations privilégiées?
Alors, pour ma part, je suis entrée en relation amicale avec de nombreux artistes par goût personnel. Mmh. Nadia Léger, Jean Cocteau, Marc Chagall,
eh oui.
Raymond Moretti, Jean-Pierre Ivaral, par exemple.
Pour ce qui est des collections, des objets d'art, etc., vous avez au Negresco un certain nombre de pièces majeures. Je pense notamment au célèbre portrait de Louis XIV en costume de sacre par Hyacinthe Rigaud.
J'ai pensé que les étrangers qui pouvaient venir en France, il fallait leur montrer toujours ce que nous avions de mieux.
Oui, il y a toujours cette dimension d'ambassadeur d'une certaine culture et d'une certaine classe française, en vérité, hein, dans cette façon que vous avez eu de tenir le Negresco.
J'ai essayé, oui, de rappeler un peu Versailles. Il faut vous dire que quand j'étais jeune, toute seule, j'allais m'éduquer en visitant le château de Versailles.
Ah, ça, c'est une bonne chose.
Alors, j'ai formé mon goût, mes connaissances de cette façon.
Il y a une chose un peu particulière au Negresco, c'est que contrairement à ce qui se passe dans un grand nombre d'établissements de cette catégorie, vous accueillez, vous, les animaux à bras ouverts. Et il y a un chat célèbre au Negresco, c'est Carmen.
Mais il est toujours là,
oui.
Notre Carmen.
Elle fait partie des murs, en quelque sorte.
Oui.
Merci.
Et je vais vous dire, il y a des clients qui lui écrivent.
J'espère qu'elle leur répond très poliment.
Ben, tout au moins,
on répond pour elle.
À la place de Carmen.
Merci infiniment, Madame Augier.
Et je vous en prie.
Et bravo pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Azur et pour Nice. Merci.
Merci monsieur.
Extraordinaire histoire que celle du Negresco, qui est un peu en quelque sorte emblématique d'une certaine époque sur la Côte d'Azur. Est-ce que la Côte d'Azur dont on parle là existe encore d'une certaine façon ? Jean Descartes.
Oui et non. Le mode des vacances, des promenades, le mode des voyages, tout ça a beaucoup changé. Mais on visite ces monuments, si je puis dire dans tous les sens du terme, avec joie. Simplement, il y a une foule terrible de badauds. Alors, on reste fasciné par le Negresco, par les grands établissements. Je trouve qu'il y a une bonne nostalgie. Il faut que ça dure, il faut que ça reste, parce que ça fait partie de notre histoire, tout ça.
En dehors des palaces, parce que je ne voudrais pas qu'on donne de cette Côte d'Azur l'image d'un lieu où il n'y aurait que des casinos et des palaces. Il y a y a tellement d'autres choses, et notamment il y a les plus beaux jardins du monde, disons-le, hein, Jean Descartes.
Oui, alors là, on retombe, je dirais, sur quelque chose de fondamental. Là, on disait déjà dans les années 1900, lorsque vous sortez des fumées du chemin de fer, vous allez sentir les citronniers, vous allez voir des mimosas, vous allez être dans un jardin. La Côte d'Azur est un jardin.
En tant que tel.
Voilà. En tant que tel. Et jusqu'au jardin exotique de Monaco, par exemple, chacun aura son jardin. C'est une curiosité, c'est un agrément, c'est un charme. Et il ne faut pas oublier que aussi bien les fleurs que certains fruits ont été expédiés, et sont expédiés souvent encore aux quatre coins de l'Europe. Hein. Ça, c'est une spécialité. Et on disait, le soleil est au bout de la nuit quand on descendait du train, puisqu'il s'agissait d'un éblouissement, et c'est un environnement de fleurs. Et c'est comme ça que la grande Colette, dans une de ses formules dont elle avait le secret, en parlant de Monaco, mais c'était valable pour tout, en disant, en 1949, au prince Régnier III, lors de son avènement, Monseigneur, votre pays est le seul dont les frontières soient des fleurs.
Et n'oublions pas non plus un certain nombre de chefs-d'œuvre d'architecture, de très belles villas. Je pense à la villa Efrussi de Rothschild, je pense à la villa Kyrillos,
bien entendu. Et puis à la réputation, si vous voulez. Alors on revient à Jean Cocteau, on revient à
Santos Ospir.
On va passer à Picasso. On va tout ce qui se passera dans la Côte d'Azur et l'arrière-pays jusqu'à Saint-Paul-de-Vence, si vous voulez, est une inondation de mode. Alors ça donnera l'idée, évidemment, de luxe, de vacances, de célébrité, mais c'est un décor parfait. Il faut bien dire que l'endroit était absolument superbe, idyllique.
Et puis c'est véritablement un balcon sur la mer. Il y a cette rencontre fascinante de la montagne, des roches, hein, et on a cette espèce de littoral très abrupt, et de la mer qui souvent est très profonde d'ailleurs, puisque ça descend à pic.
Et ce qui a posé la disposition géologique et géographique a posé d'énormes problèmes, et on le sait encore aujourd'hui avec les projets de lignes à grande vitesse pour essayer de relier Marseille à Menton d'une façon un peu plus rapide. Eh bien, ça n'est pas simple à cause des rochers. Déjà, les constructeurs de voies ferrées et de routes, il y a 120 ans, 130 ans, se heurtaient à de grandes difficultés.
Merci beaucoup.
Elle se
deux.
Mérite, la Côte d'Azur.
Mais oui, elle a été un peu parfois galvaudée, elle a été souvent maltraitée, mais elle résiste néanmoins grâce à ses vertus natives. Merci beaucoup, Jean Descartes. Je rappelle que votre saga des reines, qui parle notamment de ces reines dont nous parlions tout à l'heure,
ah, enfin, ces impératrices, il y a les quatre des impératrices, elles sont là toutes les trois.
Est parue chez Perrin à l'automne dernier. Quant à vous, Bertrand Decoeurs, vous êtes en train de travailler à un ouvrage sur les Romanov, vous viendrez nous en parler. Merci beaucoup. L'ouvrage de Jeanne Augier, qui s'appelle La Dame du Negresco, aux éditions du Rocher, est disponible là aussi depuis l'hiver dernier. Merci à vous deux.